Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord. C'est aujourd'hui notre dernière émission consacrée à la poésie chinoise classique et aux éditions Mundaren tout au long de cet été. Dans cette émission La Terrasse du Ciel, je vous ai fait connaître quelques-uns des grands poètes de l'époque classique. Ça a été notamment Pokuyi, Lu Yu et Qiya Tao dans la traduction et l'adaptation proposée par les éditions Mundaren. Tous les textes que je vous ai lus, prose et poésie, émanent donc des livres publiés par cette maison d'édition dirigée de main de maître par Hervé Collet. Et pour clore ce cycle d'émissions, bien évidemment, j'ai demandé à Hervé Collet de bien vouloir répondre à nos questions. Il va tout nous dire comment il a appris à connaître ces formes de poésie chinoise, mais aussi japonaise, puisqu'aux éditions Mundaren, vous aurez accès à tous les grands maîtres de la poésie japonaise de type haïku. Comment Hervé Collet a-t-il appris à connaître les courants de pensée sous-jacents à ces poésies, c'est-à-dire le taoïsme et le bouddhisme Chan? Eh bien, il va nous le dire, tout à fait cessante.
Juste avant, j'aimerais saluer les gens qui nous écoutent et leur dire un peu comme les hindous le font quotidiennement, honneur à Dieu en toi. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, chercher l'origine des choses est toujours difficile, il faudrait remonter au Big Bang pour tout ce qu'on voudrait expliquer, peut-être. Néanmoins, il y a peut-être deux repères dans ma vie. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup consulté un livre de photos sur l'Indochine qui m'a profondément marqué. Ensuite, il y a eu la rencontre avec l'écologie à la fin des années 60 et 70, à l'époque où l'écologie était, pour une certaine partie, préoccupée de sacré, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc il y avait toute une effervescence culturelle autour de l'écologie qui incluait l'intérêt pour, entre autres, pour les philosophies et les sagesses d'Extrême-Orient. Donc j'y suis arrivé par ce biais-là, et un jour je suis tombé sur un poème chinois écrit dans une petite revue littéraire underground, comme on disait à l'époque, qui s'appelait Chaman, écrit par des gens dans les Pyrénées. Et il y avait en couverture un poème de Han Shan, qui est un ermite chinois du, on ne sait pas trop, du 8e, 9e siècle, dans cette tradition des ermites excentriques et insouciants. Et il y avait une traduction de Gary Snyder dans cette revue, et immédiatement, en lisant ce poème, je me suis senti chez moi. Donc ça a commencé véritablement là. Et en même temps, je lisais beaucoup Jean Giono à cette époque. Et dans un livre, je ne sais plus où d'ailleurs, j'ai jamais pu retrouver, à un moment il dit « Ah, les Chinois !» Et donc j'ai repris la balle au bon, là, je crois. J'ai baigné dans cette ambiance de poésie taoïste et de haïku japonais. Le haïku japonais, c'est plus le côté zen des choses, c'est-à-dire très ramassé. D'ailleurs, un haïku japonais, vous savez, ces petits poèmes très courts, est en fait la dernière ligne d'un quatrain chinois qui ont été écrits quelques siècles avant. Donc je lisais beaucoup à cette époque le travail des sinologues traducteurs américains, surtout, c'est eux qui produisaient le plus. En France, il y avait assez peu de choses. Et puis, donc, j'ai rencontré ma compagne qui est chinoise et nous nous sommes mis à traduire directement de l'original. Voilà où on en est, maintenant, 30 ans après, où on a publié, en s'auto-publiant, une cinquantaine de livres, la moitié domaine chinois, l'autre moitié domaine japonais, uniquement de poésie. Donc, y a des livres qui sont consacrés à un poète, une biographie, un portrait illustré par les poèmes, et des livres à thème. Au cœur de tout notre travail, il y a le zen et le tao. Bon, le tao, que je traduis, moi, par la voie de l'accord au cours des choses, c'est bien ça que reflète le taoïsme philosophique de Lao Tzu et de Chuang Tzu. C'est dans un accord au cours des choses, un peu comme le surfeur, vous savez, qui avance sur la ligne de moindre résistance. Et le zen, qui est en fait le résultat de l'infusion du bouddhisme indien dans la pensée taoïste et chinoise. Les grands maîtres zen chinois nous ont laissé une œuvre assez importante. On a d'ailleurs fait un livre qui s'appelle Propos Zen. Et donc, le Tao et le Zen sont au cœur de notre travail et tous les poètes, à peu près tous ceux que nous avons traduits, sont rattachés de près ou de loin, de près comme moines pour plusieurs d'entre eux, de plus loin comme disciples laïcs, sont tous en connexion avec le Zen. Bon, je crois avoir répondu à votre question en oubliant sûrement beaucoup de choses.
Alors, les livres dont nous parlons sont évidemment nés d'une volonté de transmettre un héritage poétique et spirituel, mais parlons aussi de la forme, parce que les livres sont superbes, vos livres sont reliés à la chinoise, avec des couvertures sombres, reliées par une petite ficelle blanche. C'est des livres qu'on a vraiment plaisir, plus que de plaisir d'ailleurs, de bonheur de tenir en main. La forme et le fond, en fait, sont tout à fait liés chez Mundaren.
Oui, si vous voulez, mais vous savez, tout ça se fait naturellement, il n'y a pas de volonté, vous avez employé ce mot au départ. Les choses se font d'elles-mêmes. Moi, j'étais intéressé par cette poésie. J'ai donc traduit le premier poète que nous avons traduit avec ma femme est Lipo, le poète Tang le plus connu, peut-être. Un livre qui s'appelait « Buvant seul sous la lune ». Et j'avais fait une lecture à la Maison de la Poésie et en même temps une longue émission, pas didactique, mais où on faisait un portrait de Lipo sur France Culture pendant une heure et demie. Et dans la foulée, j'ai voulu éditer le livre. J'ai contacté plusieurs éditeurs, et l'un d'entre eux, Pierre Segers, bien connu, m'a dit « mais faites-le vous-même ». Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré comment faire une reliure à la chinoise. Et puis voilà, si je puis dire, de fil en aiguille, les choses ont commencé comme ça.
C'est le cas de le dire.
Mais il n'y a pas de volonté de ceci ou de cela au départ. Vous savez, la vie nous impose un peu les choses.
Est-ce que traduire des poèmes chinois et des haïkus, est-ce que c'est particulièrement difficile? Parce que les poèmes chinois, notamment, sont connotés, ils sont pleins de références à la spiritualité taoïste. Et puis, le lecteur occidental n'est pas forcément très au fait de cette culture. C'est donc un vrai défi qui se présente aux traducteurs. Comment être compris sans trahir, finalement?
Écoutez, je vais être très sincère. C'est à la fois peut-être difficile vu de l'extérieur, et en même temps très facile. La poésie chinoise est une poésie de circonstances, c'est-à-dire que le poète chinois décrit ce qu'il est en train de vivre. Le poème est intéressant quand, à un moment donné, il y a un instant de grâce, qui, en général, est conclu dans le dernier vers d'un poème chinois. Donc, une fois le mot à mot fait, et ça c'est ma femme qui est chinoise qui s'en charge, il reste à, si l'on veut traduire sans trahir, comme on dit, il faut se glisser dans essayer de se glisser dans l'expérience poétique du poète qui a écrit. Et une fois qu'on y arrive, et quand les poèmes sont bons et beaux, c'est très facile, on se glisse dedans et puis il n'y a plus qu'à mettre les mots, comme si on faisait soi-même le poème d'ailleurs. Et ce processus que je viens de décrire, je ne sais pas s'il était clair, pour moi il était. C'est exactement le même processus que fait le lecteur.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On fait l'expérience qui est décrite dans le poème. On la refait pour soi-même, c'est vrai, oui.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de traduire toujours dans ce sens-là.
Ouais. Alors, ce qui frappe, moi, dans la poésie de Han Shan, de Lipo, de Wang Wei, pour ne citer que ces trois-là, c'est cette espèce de confondante simplicité, cette légèreté. Et puis, finalement, le peu de place que l'homme y tient, il est là en tant que narrateur pratiquement, et puis on sent un amour inconditionnel de la nature.
Oui, bien sûr, mais vous l'avez dit quand même, il est là, le poète.
Oui.
Vous savez, vous avez sûrement vu ces grands paysages chinois, souvent verticaux, là, où on voit une nature fantastique dans les montagnes, et tout en bas,
oui.
Il fait à peine un centimètre, il y a le personnage qui est le peintre lui-même, qui est le poète. Et sans ce personnage, qui est un millième du tableau, s'il n'est pas là, le tableau perd presque tout intérêt.
Oui.
Ce petit personnage, ce petit poète, ce petit peintre, va donner tout le recul incroyable au tableau. Et c'est ça qui est important. Vous dites, cette poésie est très simple, exactement, elle est très simple et sincère. Et c'est la seule façon pour elle d'exprimer la profondeur, la profondeur de l'expérience humaine. C'est ça qui compte dans ses poèmes. Je vais vous donner juste un exemple. C'est deux vers d'un huitain de Wang Wei. Wang Wei, c'est une période Tang, c'est-à-dire début du 8e siècle. À la fin d'un poème, il s'adresse à un ami et il lui dit « Tu demandes la vérité suprême, le chant du pêcheur s'éloigne le long de la rive. » Voilà, c'est ça la poésie chinoise. Enfin, celle qui nous intéresse, qui est animée par ce que je disais au début, comment dire, l'atmosphère taoïste.
Ouais. Alors, une chose me frappe aussi, c'est l'ivresse qui est c'est un thème qui revient souvent, notamment chez Pocuyi, Lu Yu, Lipo.
Tous.
Oui, tous. Hein. Alors, le vin n'arrête pas de couler, le poète se met vraiment dans des états pas possibles, et il n'en éprouve aucune honte, au contraire, il s'en réjouit. Alors, moi, je me posais cette question, faut-il prendre au pied de la lettre ces références à l'ivresse, ou est-ce qu'il s'agit d'une métaphore pour décrire des états spirituels ?
Les deux. Mais oui, bien sûr, les deux. Ces états spirituels extatiques sont provoqués par leur ivresse. Et ils ne cherchent pas l'ivresse pour l'ivresse, mais ils cherchent l'ivresse pour l'accord à la création. Et après ça, c'est, comme je disais, cette poésie est une expérience avant tout. Après, le poète l'écrit, la transmet dans les mots, mais on pourrait très bien s'arrêter. Le poète est aussi celui qui vit une expérience. Nous sommes donc, d'une certaine manière, tous poètes, tous dans notre vie vivons plusieurs, beaucoup, moments de grâce. Quand je dis moments de grâce, pour préciser, c'est d'accord total aux circonstances et à l'instant présent. Et l'ivresse est ivresse terrestre, mais évidemment spirituelle.
Un de vos derniers livres, qui est une anthologie de haïku, est intitulé « À la recherche de l'instant présent », évidemment.
Perdu.
De l'instant perdu.
Vous détruisez tout mon effet, là.
Oui, c'est un clin d'œil, évidemment, à Proust. Oui, parce que l'instant perdu, on peut effectivement le perdre, et on le perd plusieurs fois par jour. C'est très rare. Ces moments de grâce sont furtifs, sont rares, même s'ils existent pour chacun d'entre nous.
Vous savez, j'ai beaucoup parlé dans le livre que vous signaliez au début de l'entretien, Dieu et moi, j'ai beaucoup parlé de l'instant.
Oui.
Parce que je m'intéresse beaucoup à l'étymologie des mots en français. J'y ai trouvé une incroyable vérité. Et dans le mot instant, par exemple, c'est instant en latin, et stand, ça veut dire être debout. Donc, vous voyez, dans un mot temporel, l'instant, l'étymologie nous ramène à quelque chose de très terrestre, être debout, inscrit dans le monde. Et donc, c'était un clin d'œil, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais le haïku est toujours un clin d'œil.
Oui. Cette présence au monde, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous manque terriblement et qui fait qu'on a un rapport assez... inégal à la nature. On a l'impression que si on avait suivi les maîtres taoïstes, on n'aurait tout bêtement peut-être pas les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Tous les problèmes qu'on a actuellement viennent de ce qu'on appelle la pensée analytique et discriminante. À partir de ça, on a séparé... Vous savez ce que ça veut dire, analyse analytique, étymologiquement, c'est l'action de séparer.
Ouais.
La pensée analytique sépare, elle a permis de comprendre le monde à travers un grillage, si on veut, mais pièce par pièce, bout par bout. Alors que la pensée intuitive et religieuse, celle que je mets en avant, moi, elle englobe. Immédiatement, elle englobe. Donc ce genre de pensée-là n'aurait sûrement pas mené, conduit à la technologie que nous avons actuellement.
Oui. Cette poésie est inséparable, alors j'allais dire du zen, mais aussi du bouddhisme Amida, le bouddhisme de la terre pure. Je me suis rendu compte que beaucoup de grands haïjins étaient plutôt rattachés à l'école de la terre pure que du zen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux écoles? Est-ce qu'il y a des différences importantes entre le zen et la terre pure?
Écoutez, le zen... Attendez, d'abord, j'aimerais dire, le lien entre haïku et zen n'est pas évident pour tout le monde. Ouais. Le haïku, surtout, vous savez, au Japon, c'est beaucoup développé, il y a des jeux autour de ça. Bon, il y a beaucoup de choses sans intérêt, mièvres. Shiki, qui est le dernier grand maître de haïku au début du XXe siècle, disait, un grand poète ne compose guère plus de 200 bons haïkus dans sa vie. 200, c'est peu. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos livres. Mais vu toute cette ambiance de composition de haïku qui est à la mode maintenant, 90% n'est pas intéressante parce qu'elle n'a pas de profondeur. Donc, pour moi, il se trouve que tous les grands maîtres de haïku étaient de près ou de loin, c'était, moi j'ai plutôt le sentiment, ils sont plus proches du zen en fait. Certains comme Issa étaient un disciple de la terre pure. Alors la différence, vous me demandiez, bon, le zen ça vient du chan chinois, c'est s'éveiller à sa propre nature originelle. C'est ça. S'éveiller à notre propre nature originelle, identique à celle de l'univers. C'est ça le zen. L'expérience d'éveil dans le zen est très importante. Le zen met l'accent sur l'expérience. Donc, tout ça doit être vécu. C'est une expérience. C'est pas quelque chose à comprendre intellectuellement. C'est une expérience à vivre. Alors, l'école de la terre pure, elle, est plus proche de pratiques dites religieuses. Il s'agit de prononcer l'acte essentiel. Dans le zen, c'est la méditation. Enfin, plutôt la contemplation, pardon. Et dans la terre pure, c'est de répéter un mantra, vous savez, ces paroles, ces psaumes, en fait, qui est Namu Amida Butsu, qui veut dire « Salut ô toi, Bouddha, à la lumière infinie ». Bon, c'est un côté exotique, mais je crois que l'essentiel, moi, le cœur, le noyau de la chose, c'est le zen.
Alors, le zen, et en règle générale, la spiritualité chez les Japonais n'est pas séparée de la vie quotidienne, et même souvent dans ce qu'il y a de plus trivial. Je pense notamment au haïku d'Issa. Dans les haïku d'Issa, on pleure, on contemple, on prie, mais parfois on se mouche, on pète, on urine, on défèque. Pourtant, ce n'est jamais vulgaire. C'est ça aussi le miracle du haïku.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais l'essentiel encore est d'être profond, même si on évoque ces choses-là. Il faut sentir dans le haïku la profondeur de l'expérience humaine. Vous parliez d'Issa. Il y a un haïku, moi, que j'aime beaucoup, là, et qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Issa a vu beaucoup de membres de sa famille décédés, sa femme, plusieurs enfants, et il se retrouve assez âgé seul, et il va au cimetière. Et voilà ce qu'il écrit. « Me rendant sur les tombes, le vieux chien va devant. » Voilà, trois lignes. « Me rendant sur les tombes, le vieux chien va devant. » Va devant parce qu'il a l'habitude. Et dans ce haïku, il nous donne à sentir toute l'épaisseur, la profondeur de sa vie. Et encore faut-il, évidemment, connaître le contexte. Oui. Il y a certains haïkus, vous voyez, ces petits poèmes courts, gagnent quand on connaît le contexte dans lequel ils ont été écrits. C'est pour ça que nous, dans nos livres, on fait un portrait du poète, on donne le plus de renseignements biographiques possibles, et souvent les haïkus s'inscrivent dans leur vie.
Ouais.
Et ça, c'est passionnant de voir une vie écrite en poésie. C'est ce qu'on essaie, nous, de rendre dans nos livres.
Oui, tout à fait. Et vous y parvenez, tout à fait. Il nous reste 7 minutes. Je voudrais que vous nous parliez du livre « Dieu et moi », donc sous-titré « Essai sur Dieu et la contemplation poétique du monde ». C'est un livre que vous avez écrit et auquel vous tenez beaucoup. Alors moi, la première question que je vous pose, c'est de quel Dieu est-il question dans ce livre ?
Voilà la grande question. qui m'a toujours animé et qui m'anime toujours dans le travail que je fais, même avec les poètes chinois et japonais. Et Dieu dans tout ça. Moi, je suis d'éducation catholique, chrétienne. Ce que j'en ai retenu, ce serait une icône peut-être orthodoxe du Christ Pantocrator. Ce serait de l'encens, des bougies, et une langue, à l'époque, que je ne comprenais pas, le latin. Donc c'est ça qui m'a marqué, moi. Donc ça reste toujours présent, ça. Mais le Dieu qu'il y avait derrière, je ne comprenais pas. Et un jour, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très intéressé par l'étymologie. J'ai ouvert un dictionnaire étymologique au mot « Dieu ». Et qu'est-ce que j'ai vu ? Racine indo-européenne « dei », qui signifie « briller », qui dérive en « diu », ils écrivent ça « d-y-e-w », qui signifie la lumière, le ciel lumineux. Et tout d'un coup, la question, si je puis dire, s'est éclairée pour moi. Et il était question de lumière, d'ailleurs. J'ai compris que Dieu n'était pas celui qui fit la lumière, comme on avait essayé de me le faire comprendre, de le faire croire. Mais c'est la lumière. Et ça change tout. Dieu, le Dieu qu'on... Je cherche absolument pas à provoquer, hein, vous l'aurez compris. Je parle sincèrement de mon expérience. Et donc, tout s'est éclairé pour moi. Et Dieu devenait lumière. Et donc, expérience de la lumière, tant extérieur qu'intérieur. Et aujourd'hui, si vous me demandez Dieu pour vous, c'est quoi ? Je vous dirais c'est une expérience. C'est une expérience de réaliser l'éternité de l'instant présent. Et là, vous voyez, quand on part sur ces explications-là, on n'a plus besoin d'un Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais on ne va pas parler de créateur, mais de création, qui est en train de se créer en ce moment même. La création, c'est pas il y a tant d'années en arrière, c'est toujours en ce moment. Ça se crée en permanence. Et les choses deviennent singulièrement plus claires. Et je me rapproche évidemment là, à travers cette étude sur les mots, de ce que le bouddhisme avance. Il n'y a pas de Dieu chez les bouddhistes. Mmh. Et je dirais même que chez tous les mystiques, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, il y a cette notion d'un Dieu qui serait expérience avant tout, et non pas personne. Et on a beau dire, mais on est toujours très marqué par ces images qu'on a. Moi, il y a une image très présente en moi, c'est à l'église où j'allais petit. Il y avait un énorme tableau au fond de la nef représentant Dieu sur son trône. On est très marqué par ces images quand on les a regardées si souvent. Et donc, on a besoin d'un créateur. C'est curieux d'ailleurs, ce besoin de toujours trouver un créateur derrière la terre-mère universelle. Il faut toujours qu'il y ait un créateur. On ne peut pas imaginer qu'il y a une création, simplement. Donc, cette étude-là m'a rapproché, évidemment, du bouddhisme et du taoïsme.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre, alors ? Parce que vous parlez...
C'est le genre de réflexion que je viens d'avoir, ouais. Donc sur Dieu, sur la contemplation, sur la poésie, c'est des réflexions qui sont parsemées de petits haïkus certains que j'ai composés, d'autres que j'ai extraits de poètes chinois plutôt. Je peux vous donner, si vous voulez, un haïku de ma composition.
Ah, tout à fait.
Ça, pour vous amuser. Alors, en trois lignes. Le voisin rentre d'Espagne, il écoute du flamenco. Je pense que vous pouvez vous glisser là-dedans. Voilà.
Ouais. Donc là encore, on est très proche de l'expérience quotidienne. D'ailleurs, je crois qu'il y a un maître zen ou un patriarche chinois auquel un élève lui demande quelle est la voie spirituelle et lui dit c'est ta vie quotidienne. Je crois que ça doit exister, ça me semble-t-il.
Oui, sous des tas de formulations différentes. Ouais. Ah oui, on en revient toujours à ça. Mais pour revenir à l'étymologie, je parlais de Dieu qui est le jour. Mais il y a un autre mot, c'est le jour, la journée, dies en latin, c'est exactement la même racine. Ouais. Dieu, le jour, le quotidien, là on y est toujours. Dieu, si vous voulez, on peut employer le mot Dieu plutôt que le mot d'éveil. Enfin moi je l'emploierais comme ça, donc j'y mettrais pas de majuscule évidemment. Un petit dé. D'ailleurs, j'avais sorti une première édition de ce livre, Dieu et moi, que j'avais intitulé Dieu, mais en l'écrivant D'YEUX, pour renvoyer bien à la contemplation. Donc, Dieu était quelque chose qui se vit quotidiennement, évidemment.
Merci beaucoup, Hervé Collet. On arrive au terme de cette émission. Je renvoie évidemment...
Est-ce que je peux dire un dernier mot ?
Oui, je vous en prie.
Un truc sympa que j'aimerais vous lire. C'est une histoire zen très courte. Alors, la voilà. Le maître monta en chaire et au moment même où il allait commencer son sermon du jour, un rossignol se mit à chanter. Quand l'oiseau eut fini de chanter, le maître dit à ses disciples « C'est tout ce que j'avais à vous dire. » Puis il prit congé.
Oui, c'est vraiment admirable. On voit l'identité entre le maître, le monde et puis la doctrine, quoi, c'est ça ?
Bravo.
Hervé Collet, merci beaucoup. Je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices que vos livres, on peut avoir le catalogue complet sur mundaren.com. Hein, et donc, on peut se procurer vos livres très facilement, je l'ai fait moi-même. Et c'est le bonheur d'avoir un livre superbement relié et de venir et de revenir sans cesse à cette poésie chinoise et à ces haïkus qui ont tant de choses à nous dire occidentaux de ce 21e siècle sanglant. Merci beaucoup, Hervé Collet.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Thank you.